pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Serge Mariani.
Y a-t-il vraiment une si grande différence entre un groupe d'enfants et un orchestre lorsqu'il s'agit de jouer? Pas tant que ça, je pense, surtout si le plaisir et l'enthousiasme sont les moteurs du jeu. On pourrait modérer cela en précisant que dans le cas du jeu entre enfants, il est le plus souvent question de rôle, de personnage que l'on y incarne. On joue aux Indiens et aux cow-boys, on se court après avec de vieux tubes néons en guise de sabre laser, et par-dessus tout, on y croit. S'ils ne se poursuivent pas sur scène, ou rarement, en se menaçant de leurs archers ou de leurs instruments respectifs, que font les membres d'un orchestre, qu'ils soient un quartet ou un grand ensemble symphonique, sinon jouer le rôle qui leur est attribué par la musique? Jouer est une activité fondatrice de la vie, en tout cas la vie des humains, comme celle des animaux. Les lionceaux, comme les enfants, avancent dans leur jeune vie en jouant. Il est donc naturel que cela se retrouve dans l'activité d'un musicien ou d'une musicienne, et c'est de cela qu'il s'est agi dans la conception du nouvel album de notre invité aujourd'hui, replacer l'idée et la pratique du jeu au cœur de celle de la création musicale. Que la musique soit écrite, très méticuleuse, ou qu'elle soit libérée du maximum de contraintes formelles, libérée dans le jeu de l'improvisation, c'est bien ce jeu qui est source d'énergie et d'inspiration. Nous allons en parler, comparer nos points de vue tout au long de cette nouvelle jazz interview avec son invité que nous connaissons bien sûr bien sur Art District Radio et que nous apprécions beaucoup. Bonjour Louise Jalut.
Bonjour Serge.
Comment ça va?
Après cette présentation magnifique, forcément, que bien.
C'est gentil, merci. Oui, mais c'est aussi inspiré par la musique, tout ce que j'ai écouté, l'album, etc. Et puis on se connaît un petit peu, donc je connais pas mal de choses venant de ton univers. Et puis je suis ravi qu'on se rencontre, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Mais donc il y a cet album, Jeu, qui est sorti officiellement le 8 mars, c'est ça? Et puis voilà, dont on a déjà pas mal parlé sur les différents médias qui s'intéressent à la musique. Et là, nous allons en parler entre nous. Nous accueillerons un peu plus tard un autre invité de l'émission, un invité mystère pour le moment, qui aura sans doute ses réactions à ce qu'on vient de dire, à ce qu'on va dire surtout. Mais déjà, Louise, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que le jeu pour toi, de façon générale, on va dire, en tant que musicienne? Et comment le jeu est devenu en quelque sorte la clé du projet de ce nouvel album?
Alors c'est un plaisir avant tout de se mettre en jeu et de se jouer surtout de tous les dogmes et de toute pensée préétablie à travers un instrument qui se prête habituellement, on le connaît beaucoup pour ça, pour son utilisation dans le tango, et j'ai voulu jouer avec tout ce qui me faisait plaisir de jouer.
C'est vrai que j'ai cru que tu allais dire, non, quand tu as commencé à parler de l'instrument, j'ai cru que tu allais dire, c'est vrai que cet instrument, on dirait un peu un jouet.
C'est une petite boîte, c'est une petite machine. C'est vrai que quand on est enfant, on ne pense pas du tout au répertoire auquel on va jouer. Moi, j'ai commencé très jeune, donc à l'âge de 5 ans. Et quand j'ai vu cette petite boîte où sortaient tous ces jolis sons, j'ai eu envie, bien sûr, de comprendre et de percer un peu le secret de cette mystérieuse machine pour m'exprimer aussi à travers elle plus tard, avec un peu plus de maturité.
Oui, c'est vrai que même à côté de l'accordéon, alors on ne parle pas du piano, mais à côté de l'accordéon, c'est vrai que le bandoneon a l'air comme ça, tout à fait minuscule. Enfin, on a l'impression vraiment que c'est un peu un jouet, mais ça n'en est pas un, ou tant mieux si c'en est un. En tout cas, c'est la musique qui en vient qui est importante. Et dans ce nouvel album, le troisième, si je ne dis pas de bêtises, on a eu Francesita, puis l'hommage à Piazzolla, 2021, et puis maintenant, donc, cet album, toujours sur le label Clarté. Il y a aussi quelque chose dont il faut parler dans la genèse de cet album, c'est la résidence à la Villa Médicis. Parce que, alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le projet était déjà bien abouti, au moins dans ton esprit, avant cette résidence, ou est-ce que cette résidence lui a permis de vraiment s'ouvrir, se développer comme tu, peut-être même comme tu n'imaginais pas, c'est pas.
Alors, il n'était pas du tout abouti quand je l'ai proposé en résidence à la Villa Médicis. J'avais à peu près les idées de répertoire ou de compositeur auquel je souhaitais m'attaquer, bien que tous n'étaient pas envisageables. Mmh. Et c'est sur place, lorsque j'ai vu le mélange de ces pierres et de ces vieilles pierres et l'urbanité en fait qui l'entourait, ce mélange m'a beaucoup touchée, beaucoup marquée. Et puis ce passé, ce mélangé au présent, cette confrontation, ça m'a beaucoup motivée à faire ce que le disque est aujourd'hui.
Ah oui, c'est-à-dire qu'en effet, je ne sais plus exactement où est située la Villa Médicis à Rome, ça fait longtemps que je ne suis pas allé là-bas, mais de toute façon, en effet, sans doute plus que Paris, par exemple, Rome est une ville où il y a une confrontation permanente entre le passé, souvent très lointain, et le présent, oui, c'est vrai, donc c'est peut-être assez marquant.
Oui. Oui, puis quand on se trouve dans ces murs qui où de grands noms vraiment de la musique sont passés, c'est forcément quelque chose qui ils sont présents en fait. On est tous chacun dans nos appartements en train de travailler finalement c'est comme des fantômes tous ces compositeurs et ces grands ces grands artistes qui sont passés par là habitent en même temps que nous cette ville-là, c'est assez impressionnant.
Donc, avant de faire une première pause avec un titre extrait de l'album, comment tu es passé, est-ce que ça a été difficile ou pas de passer de l'univers de Piazzolla, c'était il n'y a pas si longtemps, ce nouveau répertoire, en quelque sorte, même si on y retrouve évidemment à la fois des sonorités et puis, on le verra, une inspiration musicale du tango, mais loin de là, pas uniquement, je veux dire. Comment tu as vécu et comment ça s'est passé, même artistiquement, personnellement, la transition, le passage?
Alors, j'ai toujours travaillé parallèlement au répertoire du tango. Et plus globalement de la culture argentine, ouais. Des pièces du répertoire classique ou des transcriptions baroques. En fait, dans les études du bandoneon, on étudie aussi la transcription. Alors, ça m'a pas paru être un grand challenge pour moi parce que c'est aussi ce patrimoine qui m'a accompagnée durant mes études. Et puis, durant mon quotidien, en fait, j'aime aussi beaucoup écouter cette musique. J'ai aussi étudié avec Bernard et l'analyse au conservatoire sur des pièces comme celle-ci. Donc, ça m'a pas paru être un saut de géant.
Voilà. Oui, d'accord. Oui, tu n'as pas eu l'impression de passer d'un monde à un autre. Il y a une continuité. Oui. Bah justement, on va en parler dans la suite de cette émission. Pour le moment, on va faire une première pause. Et alors, on va faire une pause avec l'un des titres de l'album, Jeu. Donc, moi, je propose qu'on écoute d'abord une milonga. On parlera peut-être un peu de ce que c'est particulièrement une milonga par rapport à un tango peut-être spécifiquement, mais en tout cas on va écouter cette milonga en mi majeur qui est donc extraite de l'album Jeu, et on se retrouve tout de suite après dans la deuxième séquence de cette jazz interview avec toi, Louise Jalut. À tout de suite, d'abord la milonga en mi majeur. C'était en mi majeur, c'était surtout en mi longa, mi longa de Louise Jalu, dur l'album Je. Louise qui est notre invitée dans cette jazz interview sur un district radio. Donc mi longa en mi majeur. Louise, alors avec la mi longa, on est vraiment, oui, là dans la tradition vraiment de la musique argentine. Il y a deux choses à dire, je crois. C'est d'abord que c'est une composition. Hein, c'est pas un thème que tu as réinterprété, on va dire. Bon, et est-ce qu'on peut rapidement, sans entrer peut-être dans tous les détails, mais rapidement dire ce qu'est une milonga, par exemple par rapport au tango?
Une milonga, c'est un rythme qui fait partie de la culture populaire argentine. Donc on a les tangos, les valses et les milongas. Mmh. Et la milonga, c'est une façon de décomposer en trois parties inégales une mesure à quatre temps. C'est un rythme qui se danse principalement. On a les milongas lentes et les milongas rapides. La milonga rapide, c'est celle de la ville. La milonga lente, c'est celle de la campagne. Mm-hmm. Alors, j'ai voulu en fait reprendre ce rythme-là et en faire une composition. Alors, d'habitude, c'est plutôt des thèmes qui sont nostalgiques, qui sont tristes, qui sont liés à l'exil. Mmh. Ici, je l'ai souhaité en majeur. Mmh. Apparemment, d'après le titre, donc plutôt joyeuse, mmh. Mais c'est un majeur triste. Et on joue sur l'ambiguïté en permanence entre justement le triste et le joyeux. Et c'est à la fin uniquement que le mi majeur apparaît, en fait, qui est une forme de délivrance après toutes les péripaties au cours de la pièce.
Ouais, d'accord. On évoquait tout à l'heure le Piazzolla 2021 et puis Francesita aussi, qui l'a précédé, le tout premier. C'était la première fois que tu composais une musique comme celle-ci?
Alors, une milonga, oui, c'est la première fois que j'ose en écrire une. mais ici, il y en a trois dans l'album. Oui. Il y a aussi la milonga blues et la milonga transfigurée. Ouais. J'ai souhaité que dans cet album, il apparaisse quand même une part de la culture argentine à travers ce rythme-là et que ces milongas soient mélangées à toutes ces autres compositions et compositeurs de musique classique.
Mmh, ouais. Alors tu as prononcé le mot blues en évoquant l'une des trois versions de milonga, on va dire, qui sont dans l'album Je. Ça m'amène à évoquer un univers particulier, alors auquel on t'associe maintenant, je dirais naturellement, c'est le jazz. Alors est-ce que moi, je ne sais pas si on s'est déjà rencontrés, on a déjà parlé, on s'était rencontrés notamment en concert pour Francesita, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu te sens, comment tu te positionnes, si je puis dire, par rapport à l'univers du jazz? Est-ce que tu considères que tu es une musicienne de jazz? Oui, ou aussi, ou en partie, ou de temps en temps?
Ce qui me rapproche le plus de l'univers des jazzmen, c'est, je crois, l'état d'esprit et la façon aussi d'aborder le matériau musical, la partition. C'est d'avoir cette liberté de s'emparer d'un thème et d'en faire tout autre chose, de créer un autre objet à partir d'un objet préexistant et c'est là tout le jeu en fait dans cet album. Mmh. Mmh. C'est de prendre toutes ses libertés et sans limite. Mmh. Tout se permettre. Alors je crois que c'est aussi une partie de la tradition du tango, elle a été celle-là dans les années 50 ou même avant dans les années 20, où on s'autorise à prendre un thème et à en faire son propre arrangement. En fait, ça fait aussi partie de la culture du tango.
Mmh. Il y a une liberté autorisée, si je puis dire, de jouer avec les thèmes de qui sont connus, puisque il y a beaucoup de musiques qui sont des populaires et traditionnelles. Donc les gens qui sont habitués à ces thèmes, ces musiques, les connaissent, et donc on accepte tout à fait volontiers qu'un tel ou tel musicien en fasse un peu sa propre version.
Exactement. Le seul où on acceptait peut-être moins de le faire, c'était Astor Piazzolla, et j'ai souhaité le faire dans le précédent album, parce que justement, oui, pour moi, c'était un peu lui rendre hommage que de le standardiser. Voilà, s'autoriser un standard, en fait, c'est un peu peut-être là le lien avec le plutôt du jazz.
Ouais. Alors, il y a un autre univers. Alors, je sais pas, on va en discuter justement. Moi, j'avance un peu comme ça en terrain pas toujours très connu. Il y a un autre univers qui est présent aussi dans l'album, particulièrement celui-ci. C'est, j'aime pas beaucoup ce mot, c'est classique, mais contemporain, musique, on va dire un autre domaine de la musique. Avec par exemple le titre, c'est le titre d'ouverture, je crois, le thème d'ouverture, c'est Schumann et Wozzeck. Donc là, on en parlera peut-être un peu après. Je pense que c'est celui qu'on va écouter dans quelques instants. Et là, je pense qu'on va faire intervenir aussi notre invité mystère, dont on va dévoiler l'identité tout de suite. C'est Bernard Cavana qui est à tes côtés et avec nous pour cette jazz interview. Bonjour Bernard.
Salut Serge.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Bon, alors oui, justement Bernard, bon, on en parlera sans doute encore un peu plus après avoir entendu ce titre Schumann et Wozzeck, mais Bernard, vous avez été le responsable directeur, je crois, du conservatoire où Louise est devenue maintenant enseignante, de Gennevilliers, qui est devenue quasiment une sorte de république libre argentine en région parisienne, une autre métropole quasiment argentine, hein, à côté de Paris, Gennevilliers. Depuis Francesita, vous êtes aux côtés de Louise pour travailler, ça vous allez nous le dire un peu plus précisément que moi sans doute, préparer peut-être cette musique qu'elle va interpréter, alors qu'elle va faire sienne, et en même temps qui va aussi, parce qu'elle n'est pas toute seule à jouer la musique, il y a un groupe avec elle, hein, qui est fidèle d'ailleurs, je crois, hein, depuis quasiment le début. Donc il y a un orchestre, même s'il n'est pas très, très grand, qui est là pour transformer toutes les idées et en faire la musique qui devient celle de Louise et de ses albums. Rapidement, avant qu'on fasse une nouvelle pause avec Schumann et Wozzeck, hein, je l'ai déjà annoncé, Bernard, qu'est-ce que vous auriez déjà à nous dire sur ce travail qui est le vôtre aussi, le vôtre personnellement, et puis avec Louise et ses musiciens?
Louise, déjà, je la connais depuis, comme vous l'avez dit, depuis sa jeunesse. Gennevilliers, c'était un conservatoire particulier, et c'est l'est toujours d'ailleurs, avec la nouvelle direction. On a été les premiers à faire enseigner en Europe le bandoneon. Et c'est comme ça que Louise est venue au conservatoire, pour étudier le bandoneon. Et par la suite, elle a travaillé avec moi, mais sur l'analyse, l'orchestration, la composition, Et voilà, donc c'est tout naturellement après qu'elle s'est adressée à moi pour qu'on travaille sur des arrangements. Et on travaille un peu à la manière, je dirais, d'un cinéaste avec un monteur, avec un chef opérateur. C'est un peu un travail collectif. Alors des fois, il y a des positions qui font l'objet de différentes discussions. Et puis, on arrive à un objet qui est la partition, parce qu'on note tout quand même. Ensuite, on le propose à son groupe. Et là aussi, c'est des discussions assez intenses. Et par exemple, dans Schumann et Wozzeck, Louise voulait absolument des traits virtuoses à la contrebasse. Et donc on a formalisé ça, un peu ça, on donne ça au contrebassiste, et le contrebassiste nous dit: ouais, mais ça c'est pas du tout moi, si tu veux vraiment un contrebassiste virtuose, faut s'adresser à d'autres type. Ah, ça, c'est pas moi. Et puis finalement, il l'a intégré et il est heureux de jouer ça. Mmh. Et ce titre commence comme ça, avec cette contrebasse. Mmh. Et ça, c'est uniquement une figuration de l'harmonie de Schumann. En fait, ce Schumann est magnifique d'ailleurs, c'est en fa dièse mineur. Mais ce que nous donne la contrebasse, c'est uniquement un accord de fa dièse mineur. Au lieu de l'avoir avec des accords au piano, eh ben, on l'a avec ce trait magnifique. Et ensuite, il est rejoint par la guitare, la batterie et le piano. Ce que Louis fait tout le temps, c'est un peu compliqué, mais c'est de changer de la musique tonale dans la musique modale. Modale, c'est la musique un peu universelle qu'on trouve dans toutes les cultures humaines. Et même avec Piazzolla, ce qu'elle a voulu faire, c'est essayer de retirer tous les clichés de la musique tonale avec ses marches harmoniques pour la restituer dans un monde clos. Un peu ce qu'a fait, par exemple, Coltrane avec My Favorite Thing ou alors le Chim Chim Chiri, par exemple. Ce sont des musiques tonales, mais on reste toujours dans un univers clos. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans dans ce titre de Louise, la Schumann et Wozzeck. Puis à un moment donné, il y a une rupture, et là, il y a des harmonies déchirantes de Berg. Là, ça a été gardé.
Ouais, pour le Wozzeck,
de Alban Berg, le compositeur de ce magnifique opéra Wozzeck. Et là, ça vient casser les choses, et puis après, repartir dans une improvisation, toujours une harmonie close.
Voilà. Ben, on va. Le mieux, c'est de l'écouter. Sur tout ce qui est évoqué dans la façon de un peu de déconstruire. Bon, c'est un peu un terme à la mode, mais enfin bon, c'est assez juste, je crois, dans le cas là. Il y a le boléro aussi qui est absolument extraordinaire. Bon, j'ai un peu hésité entre est-ce qu'on écoute maintenant le boléro ou est-ce qu'on écoute le Schumann et Wozzeck. Mais on va quand même écouter le Schumann et Wozzeck. De l'album Jeu, évidemment, toujours, et on se retrouve tout de suite après pour la troisième et dernière séquence de cette interview jazz sur un district radio. Voilà, pour l'instant, Schumann et Wozzeck sont avec nous, et Louise Jalut de l'album Jeu, on l'écoute. extrait de l'album « Jeu » de Louise Jalu, notre invitée aujourd'hui dans cette jazz interview sur Art District Radio, le Schumann et Wozzeck, ensemble, Schumann et Wozzeck. Alors Schumann, c'est le musicien, Wozzeck, c'est pas un musicien, c'est plutôt c'est le titre. D'ailleurs, pourquoi vous l'avez appelé comme ça et pas Schumann et Berg ou c'était pour la pièce de Schumann, c'était le titre est moins évident. Hein, qui va répondre à ça? Louise, Bernard? Oh.
Wow, c'était marrant de prendre deux personnages.
Ouais.
Schumann, non plus un personnage, comme un personnage d'un roman ou d'un film. Mmh. Et Wozzeck, titre d'un opéra et un personnage qui va beaucoup souffrir dans cet opéra, quoi. Voilà, c'était comme ça.
D'accord. Donc voilà, Schumann et Wozzeck. On a évoqué le boléro, donc de Ravel, évidemment. Alors, pour revenir, j'ai bien écouté ce qui est en édit, ce qui est écrit, ça. C'est très subtil aussi ce travail que vous avez fait ensemble, Louise et Bernard, de ce qui était assez. Ça, c'est très bon aussi. C'est dans une vidéo, tu as joué avec Michel Portal il y a quelques mois à Paris et tu fais découvrir ce boléro sans la mélodie, parce que c'est vrai que le boléro, bon, on se dit, ça va. Alors, je me suis dit, ouais, mais finalement, c'est la mélodie, mais on reconnaît tout de suite le boléro au rythme, enfin, à la rythmique qui est donnée de départ, avant même que le thème se développe, le côté pam, 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 enfin, tout ça, tout de suite, on est déjà dans le boléro. Donc finalement, tu as quasiment, une espèce de contourner en permanence la mélodie hyper mondialement connue du boléro de Ravel pour immiscer quelque chose d'autre de cette version assez extraordinaire du boléro. Mais bon, voilà, on encourage tout le monde à l'écouter sur le disque, tout le disque. Là, c'était Schumann et Wozzeck. On terminera évidemment avec un autre extrait de l'album Jeu. Lorsqu'on a discuté un petit peu justement de la musique à diffuser au cours de cette émission, Louise, tu m'avais proposé aussi trois autres morceaux de musique plutôt classique. Alors il y avait quelque chose de, parce que Bernard Cavana, compositeur hein, quand même, et de musique, je sais pas si on ne veut pas dire sérieuse parce que c'est un peu ridicule, mais de musique qui heureusement il aime bien la cornemuse par exemple, des choses comme ça. Et donc tu m'avais proposé une de ses œuvres, la messe, c'était comment, c'est le titre déjà, je me souviens plus. Messe un jour ordinaire, voilà, avec le Kyrie. J'ai pas choisi les thèmes classiques que tu m'avais proposés. Il y avait le Schumann, justement, qui a inspiré le début de Schumann et Wozzeck. Et alors, il y avait, ça j'aimerais bien savoir pourquoi, le thème à la guitare, joué et composé par Neil Young, du film de Jim Jarmusch, Dead Man. Mm. Why? Ouais, j'ai envie de demander.
Alors... j'aime beaucoup en fait ce que propose à cet endroit Neil Young, parce que ce sont des improvisations sur un matériau très simple. Il y a une harmonie et c'est toujours en rebondissement, c'est-à-dire que c'est l'art de l'événement et chaque événement permet à la musique de se poursuivre. Et ils sont en plus très peu, il y a très très peu d'événements. Mmh. Et ça m'a beaucoup plu en fait, et beaucoup influencé, notamment pour la Milonga Blues. Mmh. Et voilà, c'est cette forme d'art, du temps qui se développe, mais qui rebondit en permanence. Mmh. Voilà, ça m'a beaucoup plu, c'est pour ça.
Mmh, d'accord, ok, oui, c'est vrai que quand on invite les auditeurs, auditrices à écouter ou réécouter ce thème à la guitare. Il y en a plusieurs versions hein, qui viennent au fil du film. Mais donc, celui que tu m'avais proposé, c'était le numéro 2, qui dure un peu plus de 2 minutes. Et en effet, on a Neil Young à la guitare, seul, et puis qui en effet brode, enfin, on ne sait pas, voilà, tourne autour de cette petite harmonie, comme ça, accord, pendant ce moment-là. Oui, oui. Alors... Donc, on a évoqué dans la précédente séquence le groupe, les musiciens. On va en parler un peu parce que donc en effet, tu les as réunis depuis le début, hein, depuis Francesita. Dans le désordre le plus total, il y a Grégoire Letouvet au piano, n'est-ce pas? Ariel Tessier, je crois qu'il est à la batterie, bien sûr. On a Carsten Ohrhapfel, j'espère que je prononce bien son nom, parce que j'ai fait un petit peu d'allemand jadis, à la guitare, là, il est à la guitare électrique, hein, je crois, tout le temps. Hein. Alors, en effet, il y a des moments de guitare électrique assez saisissants dans l'album. Qui manque-t-il ? Ah ben, notre contrebassiste, Alexandre Perrault. Oui, alors voilà, qui a souffert, comme on l'a dit au début, Schumann et Wozzeck, mais qui finalement, eh ben, il a accepté le jeu, c'est ça aussi, hein, finalement. Proposer un jeu, c'était ben voilà, c'est pas facile, mais on te propose de le faire. Au début, évidemment, dire oh, et puis finalement, il y est allé. Alors, c'est important, Louise, parce que dans le jazz, on peut aussi naviguer beaucoup d'une formation à une autre. Hein, c'est la plupart des musiciens et musiciennes de jazz ont éventuellement un groupe, un trio, quelque chose avec lequel ils jouent régulièrement, mais ils se baladent un petit peu partout. En toi, ça t'est arrivé au moins une fois, avec Thierry Maillard, hein, tu as fait partie de ce grand orchestre caméléon là. mais sinon tu joues avec ces musiciens donc depuis le premier album Francesita. C'est important, j'imagine que oui, tu vas me dire.
Oui, c'est très important pour moi parce que on construit la musique dans le temps et il nous faut du temps. Pour ça, j'aime travailler avec des partenaires de jeu.
Bien sûr.
Ils connaissent ma façon de travailler, notre façon de travailler, et nos souhaits, l'univers, les challenges en fait qu'on se propose qu'on leur propose. Et c'est avant tout des personnalités. Voilà, ce n'est pas un contrebassiste, c'est Alexandre. Ce n'est pas un pianiste, c'est c'est Grégoire. Et donc, tous ces musiciens sont avant tout des personnalités musicales qui me touchent et avec qui j'aime imaginer. J'aime m'imaginer sur scène.
Ce sont des compositeurs aussi.
Ils sont aussi eux-mêmes. Voilà. On peut aussi avoir des contradictions. Et bien ça, sûr. J'aime beaucoup ça, me confronter à des idées différentes, à un point de vue différent. En dehors de ça aussi, ce sont des musiciens aguerris, complètement aguerris dans le domaine de l'improvisation. Ils ont beaucoup utilisé aussi les codes de l'improvisation. Même s'il y a une écriture, il y a un cadre, il y a un contexte, mais l'improvisation fait aussi partie de cette écriture. Et l'ouverture à l'improvisation dans un contexte prédéfini très précisément me plaît énormément. Aussi sur scène, on a nos habitudes, on a nos façons de dialoguer, on se connaît en détail maintenant, et c'est très important pour la musique. Je le ressens vraiment profondément.
Oui, sans doute, ça permet justement de se sentir aussi plus libre et tranquille, enfin d'une certaine façon, à l'aise pour interpréter aussi des musiques qui ne sont pas forcément évidentes à jouer comme celle de ce nouvel album. Donc, il y a cette structure, ce groupe, il y a Bernard qui est là, et puis il y a quelques autres satellites qui interviennent aussi un petit peu selon les moments, selon les morceaux. Pour apporter une touche spécifique. Il y a par exemple, je ne sais plus quel est le morceau, où on retrouve quelque chose qui avait été fait pour Piazzolla, c'était d'entendre la vie, d'entendre des bruits du quotidien. N'est-ce pas, hein, Bernard et Louis ?
Tout à fait.
Hein, là, vous avez quelqu'un, j'ai oublié son nom.
Kino Favotti.
Ah voilà, c'est ça. Qui lui était... C'est pas le bruiteur, hein, mais c'est lui, il vient, il apporte ses sons. Voilà, on a l'impression d'être sur des quais d'un port ou dans la rue, où voilà, on entend des ambulances, la police, enfin bon Dieu sait quoi, qui nous replonge dans la vie urbaine aussi, un peu comme tu évoquais aussi tout à l'heure l'importance de. C'est vrai, on a, c'est complètement, ce serait stupide de considérer que la musique, à la fois dans sa conception et puis dans sa restitution, devrait être coupée de la vie de ce qui se passe dans le quotidien, quoi.
Tout à fait, c'est le vécu s'entend, hein. C'est le lien entre les musiciens, on le perçoit. Voilà,
bien sûr. Alors, Louise et Bernard, on va se séparer bientôt. Donc il y a un titre évidemment qui va revenir. Je crois que ça va être un titre permanent des albums de Louise. C'est Gennevilliers. À Gennevilliers toujours. On va se dire au revoir en proposant à nos auditeurs auditrices de l'écouter et puis surtout de se jeter si c'est pas déjà fait sur l'album Jeu. Voilà. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et puis, on se dit à bientôt. Et là, on va faire un petit tour à Gennevilliers. Toujours, bien sûr. À bientôt. Merci beaucoup.
À ciao. Bientôt.
Thank you.